Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 23 octobre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien demande le jugement des criminels américains et sionistes responsables des crimes commis à Gaza. Des avions militaires israéliens ont mené de nouvelles frappes sur des zones proches de 3 hôpitaux dans la bande de Gaza assiégée. Et les manifestations se poursuivent dans de nombreux pays pour dénoncer l'agression sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Dans le cadre d'un nouveau programme de drones baptisé Rasoul, des experts de l'industrie iranienne de la défense aérienne ont adapté des missiles solaires de fabrication iranienne pour être embarqués sur divers types de drones. L'industrie de la défense iranienne dévoile le nouveau programme de drones baptisé Rasoul dimanche 22 octobre en présence du général de brigade Ali Reza Sabahi Fard, commandant en chef des forces de défense aérienne de l'armée iranienne. Le général de brigade Ali Reza Sabahi Fard a salué les acquis remarquables de l'industrie de la défense aérienne de la République islamique d'Iran qui ont été dévoilés lors de l'exercice conjoint de l'armée iranienne début octobre et a déclaré que le programme de drones Rasoul marquait un tournant dans les batailles aériennes pour éliminer le danger de tous les types d'objets volants. Il a ajouté que dans le cadre de ce programme, différents types de drones ont été équipés de missiles air-air avancés de fabrication iranienne. Le président iranien demande le jugement des criminels américains et sionistes responsables des crimes commis à Gaza, soulignant la nécessité de poursuivre en justice les dirigeants criminels des États-Unis et du régime sioniste, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré. Nous sommes sûrs que le sang injustement versé du peuple opprimé de Gaza accélérera la chute du régime et la libération d'Al-Rots. Il s'est adressé à la communauté internationale dimanche 22 octobre, faisant référence à la colère et à l'indignation mondiale provoquées par les crimes horribles commis à Gaza. Des avions militaires israéliens ont mené de nouvelles frappes sur des zones proches de 3 hôpitaux dans la bande de Gaza assiégée. Selon les médias palestiniens, les attaques de lundi matin 23 octobre visaient des terrains proches des hôpitaux Shifa et Al-Rot de la ville de Gaza, ainsi que de l'hôpital indonésien, au nord du territoire. Dans l'immédiat, les informations ne donnent aucun détail sur les dommages causés aux hôpitaux. Cependant, le directeur de l'hôpital indonésien a affirmé, cité par la chaîne d'information Al Jazeera, que les frappes israéliennes avaient causé des dégâts et des blessures graves. La Société du Croissant Rouge palestinien a rapporté le 14 octobre qu'Israël lui avait ordonné d'évacuer l'hôpital Al-Rots, demande qui n'a pas été exécutée en raison de l'impossibilité de déplacer les malades et les blessés. L'agence de presse Wafa a annoncé également dimanche soir que les avions israéliens ont lancé plusieurs raids sur 2 maisons dans la zone d'Alternis, dans le camp de Jabalia, et sur la mosquée albanaise au nord de la bande de Gaza, faisant au moins 13 martyrs. 8 autres Palestiniens ont aussi trouvé la mort suite au bombardement d'une maison à Rafah. La guerre brutale d'Israël contre la population de Gaza a commencé le 7 octobre, après que la résistance palestinienne basée à Gaza a lancé une opération surprise contre le régime. Les frappes israéliennes ont jusqu'à présent coûté la vie à plus de 4 700 personnes, pour la plupart des civils, et fait plus de 15 000 blessés. La Cisjordanie occupée n'est pas non plus épargnée. Selon les médias locaux, les forces israéliennes ont tué 3 jeunes Palestiniens lors de violents raids, portant ainsi à 8 le nombre total de Palestiniens tués par les forces du régime dimanche 22 octobre. Des avions de combat israéliens ont visé, tôt ce lundi 23 octobre, des zones dans le sud du Liban. L'Agence nationale d'information libanaise, ENINA, a fait part d'une frappe aérienne contre la banlieue sud d'Aït Haroun au sud du Liban, sans plus de détails. L'armée israélienne a de son côté affirmé avoir bombardé des positions du Hezbollah, dont des installations militaires dans le sud du Liban, en publiant des images dans les premières heures de l'Adi. Hier dimanche, le Hezbollah a annoncé dans 3 communiqués séparés avoir attaqué plusieurs bases et QG du régime sioniste dans le nord de la Palestine occupée et des fermes de Sheba. Le 19 octobre, 2 villages du sud du Liban ont été pris pour cible. Les missiles israéliens ont touché le village de Kfar Shouba et les environs de Deissa. La veille, les chasseurs israéliens avaient frappé des positions du Hezbollah dans 2 autres villages dans le sud du Liban. Les manifestations se poursuivent dans de nombreux pays pour dénoncer l'agression sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Aux États-Unis, des milliers de personnes ont manifesté dimanche 22 octobre dans plusieurs États en faveur du peuple palestinien. Les manifestants ont exigé la fin de l'occupation sioniste, l'arrêt de l'agression contre le peuple palestinien et ont dénoncé le soutien des États-Unis à l'entité israélienne. Des milliers de personnes ont participé aux manifestations organisées à Washington, New York, Chicago, Houston, Philadelphie et San Diego pour exiger la fin de l'agression contre la bande de Gaza. Au Royaume-Uni, plus de 300 000 personnes ont participé à une manifestation en solidarité avec le peuple palestinien qui s'est déroulée au cœur de la capitale, Londres. Lors de cette manifestation, qui est la plus grande marche en solidarité avec la nation palestinienne au Royaume-Uni, les manifestants ont brandi des slogans, accusant le gouvernement britannique de complicité dans les crimes de guerre perpétrés par Israël à Gaza. Dans la ville de Birmingham, 10 000 personnes ont manifesté et ont exprimé leur colère face à la poursuite des crimes du régime israélien et au soutien des gouvernements occidentaux au régime. À Glasgow, en Écosse, plus de 25 000 personnes ont défilé. L'Union des associations islamiques des étudiants en Europe a publié une déclaration pour exiger la traduction en justice du premier ministre israélien et de ses complices pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, violation du droit international et génocide. En Bosnie-Herzégovine, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la Bibliothèque nationale de Sarajevo pour soutenir le peuple palestinien opprimé et condamner la poursuite du massacre des Palestiniens. Des manifestations pro-palestiniennes ont également eu lieu dimanche à Sydney, en Australie. En France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la République à Paris dimanche pour exprimer leur soutien aux habitants de la bande de Gaza, où l'armée israélienne a intensifié ses bombardements 2 semaines après le lancement de l'opération Tempête d'Al-Aqsa. Les forces armées soudanaises ont annoncé dimanche qu'elles reprendraient leur pourparlers de paix avec les forces de soutien rapide FSR paramilitaires jeudi prochain dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah. Nous avons reçu une invitation à nous rendre à Jeddah pour reprendre les négociations, a indiqué le commandant adjoint des forces armées soudanaises Shamseddin Kabashi dans une allocution aux officiers de l'armée sur la base militaire de Wadi Seydna à Omdurman. Notre délégation se rendra à Jeddah et entamera des négociations jeudi prochain, a-t-il dit. Les médias soudanais ont rapporté que l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui assurent la médiation des négociations depuis mai, ont fixé au 26 octobre la date de reprise des pourparlers. Ceux-ci avaient été suspendus en juillet en raison de divergences fondamentales entre les parties belligérantes. Le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces armées soudanaises et les FSR à Khartoum et dans d'autres régions depuis le 15 avril. Les combats ont fait au moins 3 000 morts et plus de 6 000 blessés, selon des chiffres publiés par le ministère soudanais de la Santé. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Génocide à Gaza. La résistance se garde toutes les options sur la table concernant Israël. Depuis le début de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, menée par la résistance palestinienne contre l'entité illégitime israélienne, opération qui a suscité surprise et stupéfaction chez les services de sécurité et de renseignement du régime. Dès les premiers jours de l'opération, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a rappelé à diverses occasions la ferme position, celle de toujours de la République islamique, concernant le front de la résistance palestinienne, considérant la planification et l'exécution de l'opération Temple d'Al-Aqsa comme l'œuvre d'un travail innovant et plus que jamais puissant de la résistance palestinienne. Et c'est justement ce qui a empêché jusqu'à présent les autorités israéliennes, conscientes des conséquences d'une confrontation terrestre avec les forces de la résistance sur d'autres territoires, d'expédier des forces militaires vers l'enclave côtière de Gaza. Le premier ministre israélien a même explicitement annoncé, lors de son premier discours sur la tempête d'Al-Aqsa, qu'il ne souhaitait guère qu'un nouveau front soit ouvert dans le nord contre le Hezbollah. Or, le crime commis mardi soir par le régime israélien, lorsqu'il a bombardé l'hôpital Al-Ahli de Gaza, en massacrant plus d'un millier de femmes et enfants, a changé toutes les équations, car il a violé toutes les règles et lois internationales régissant les guerres. Les responsables sionistes qui accusaient tout d'abord les groupes de résistance palestiniens d'être responsables de cette tragédie se sont employés alors que des images épouvantables envahissaient les milieux sociaux, les chaînes d'information et les pages des médias internationaux et que les critiques les ciblaient de partout, surtout de la part des instances et organisations internationales, a propagé via les médias mainstream des scénarios de tout genre, pour ainsi susciter le doute dans l'esprit des habitants du monde entier. Malgré toutes ces mesures d'ordre psychologique, le crime israélien était si grand et si effroyable que même les protecteurs et partisans de toujours d'Israël n'ont pas pu y rester indifférents. Les organisations internationales ont considéré l'agression comme un crime de guerre, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de grave la situation de plus de 2 millions de Gazaouis, avertissant que chaque seconde de retard dans l'acheminement des aides médicales à destination de cette population assiégée coûterait de nombreuses vies. Les positions officielles de la République islamique exprimées par son ministre des Affaires étrangères étaient claires et loyales. Le leader de la révolution islamique a souligné dans des déclarations judicieuses explicites que si les crimes du régime sioniste poursuivent, les musulmans et les combattants de la résistance perdront patience et que personne ne pourra plus les arrêter. C'est une réalité indéniable.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 21 octobre 2023. Nous allons nous pencher pour cette édition au double standard de l'Occident s'agissant de l'organisation des manifestations pro-palestiniennes en Europe, plus précisément en Europe et en Allemagne. On va s'intéresser à ce contraste frappant dans ces pays qui se posent comme le berceau de la démocratie et de la liberté d'expression avec nos deux experts qui nous rejoignent depuis la France. Voilà, retour au plateau. J'ai le grand plaisir de recevoir à distance par Skype sur ce plateau de Presse TV français nos deux chers invités. Il s'agit de Emadedina Mrouni, analyste politique depuis Paris, et autre invité, il s'agit de Jean-Maxime Cornet qui nous rejoint depuis Versailles. Bonjour à vous deux, messieurs.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Voilà, tous deux sont intéressés par les questions stratégiques, le Moyen-Orient et la Palestine. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre débat. Merci d'être avec nous. Alors, on commence par Monsieur Amrouni. Monsieur Amrouni, l'Europe longtemps présentée comme un foyer de la liberté d'expression, de la démocratie, est récemment aux prises avec des questions controversées s'agissant de la liberté d'expression et s'agissant des manifestations pro-palestiniennes et pro-sionistes. Comment réagissez-vous face à ce double standard et à ce contraste frappant ?
D'abord, bonjour à vous, à votre cher invité, à nos chers téléspectateurs. En fait, il faut saluer la jeunesse française et la jeunesse européenne, mais surtout la jeunesse française et le peuple français, parce que le peuple français, il a montré le contraire. Des milliers de gens viennent tous les jours dans toutes les villes, les grandes villes de France, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, partout. Donc l'opinion publique française, elle est contre la guerre, elle est pour protéger la Palestine, protéger les civils palestiniens. Et ça, on le voit tous les jours. Ça, c'est dit. La problématique aujourd'hui, c'est que les gouvernants, par contre, il y a une minorité qui gouverne la France, qui gouverne l'Europe et qui essaie de faire le contraire. C'est-à-dire, c'est un système fasciste parce qu'on donne le droit aux racistes, aux xénophobes, à l'extrême droite, à tous ceux qui viennent cracher tous les jours, tous les heures, dans les télés, les journaux. Ils crachent leur haine contre l'arabe, contre le palestinien, contre ceux et celles qui soutiennent la Palestine et ceux et celles qui demandent à leur gouvernement, au président Macron, de protéger les civils, les enfants, les bébés et les femmes en Palestine. Qu'est-ce qu'on fait à ces gens-là ? Eh bien, on va les traiter, on va les chasser, on va les arrêter. Et même les députés de notre Assemblée nationale, des députés choisis par le peuple français, eh bien, ils sont menacés par M. Darmanin. Parce que M. Darmanin, il fait de la politique intérieure. C'est-à-dire, les bébés, les enfants meurent tous les jours, tous les cinq minutes, il y a un enfant qui meurt à Gaza. Qu'est-ce qu'il fait, M. Darmanin ? Il fait sa politique politicienne en France. Parce que M. Darmanin, il veut être un Premier ministre ou il veut être le président de la France sur le dos des massacres de M. Netanyahu à Gaza. C'est ça, malheureusement, la réalité en France et en Europe. C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, la question palestinienne est devenue une question de politique intérieure pour une minorité qui ne représente pas la France, parce que M. Macron n'a pas la majorité en France. Et il faut le dire, même en Allemagne, même en Grande-Bretagne, c'est une minorité qui gouverne l'Europe. Ce n'est pas les peuples d'Europe. Les peuples d'Europe, on les voit tous les jours dans la rue. Donc, malheureusement, pour cette minorité, la France est éveillée, l'Europe est éveillée, et surtout la jeunesse. Moi, par rapport à ce que j'ai vu depuis 40 ans, eh ben, c'est la première fois où je vois la présence de la jeunesse française. Excusez-moi de le dire, c'est les Français et les Françaises, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les Maghrébins, ce n'est pas les Africains. C'est des Français qui descendent dans la rue. On a marre de voir des massacres tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait, Mme Borne ou M. Darmanin ? Eh bien, ils font le contraire, c'est-à-dire ils ne représentent pas leur peuple. Et heureusement, le Conseil d'État vient d'annuler l'interdiction de manifester. Le tribunal administratif aussi, il vient d'annuler les circulaires des préfets. Donc, ça bouge en France, ça bouge en Europe. Il ne faut pas voir l'Europe et la France à travers les médias sionisés en France.
Merci beaucoup. Jean-Maxime Corneille, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les critiques et les militants des droits de l'homme remettent en cause ce manque d'équilibre, cette approche partielle et partiale des gouvernements européens. Je parle précisément de la France et de l'Allemagne. Alors, s'agissant de la liberté d'expression et leur double standard, car les manifestations des partisans de la Palestine se voient devant plusieurs obstacles, tandis que celles de camps d'en face, je parle des manifestations pro-israéliennes, pro-sionistes, ils continuent sans entrave. Même les autorités occidentales européennes y participent.
Et oui, deux poids, deux mesures. Déjà, je vous remercie pour votre invitation. Je salue également M. Amourouni qui a dit des choses très justes. Il y a bien, en effet, deux poids, deux mesures. Je vais par contre tempérer certaines choses et surtout sous l'angle d'une opération psychologique. Il y a beaucoup de choses qui sont à comprendre sous l'angle du temps long et de la façon dont, depuis des années, en réalité, une série d'opérations psychologiques contre la France ont été égrenées. Je l'ai déjà dit sur votre antenne, notamment à partir de la naissance d'Israël, mais c'est encore plus ancien, ne serait-ce qu'à partir de l'appellation du prophète Mohammed en français, Mahomet, qui en fait a un sens tout à fait inversé par rapport au vrai sens spirituel qu'il devrait avoir. Ceci est un indice d'une vieille subversion en France. Mais là, nous avons en effet Darmanin, un Darmanin qui se rêve comme Valls en son temps, en tant que créature d'une mafia d'État pro-israélienne. Il se rêve en effet calife à la place du calife. Il y croit, et surtout il a des traitants, on dirait des traitants en matière de renseignement, c'est-à-dire des officiers traitants, des gens qui sont derrière lui et qui le poussent à dire « Vas-y, tu peux y croire, hein. Dis exactement ce que tu veux, ce que nous voulons que tu dises, nous te donnons ta partition, et toi, avec tes éléments de langage, tu vas voir que nous allons te propulser jusqu'à la présidence. » Napoléon disait « Qui veut une place est déjà vendu ». C'est le point commun de ces créatures artificielles qui ne sont pas arrivées par leur vertu, mais qui sont arrivées par leur docilité. Rappelez-vous, il y a d'un côté le sens de l'État, quand on sert l'État en tant que structure de protection du peuple, et il y a les faux serviteurs de l'État qui en réalité servent non pas l'État, mais qui servent des personnes ou des réseaux qui fonctionnent comme des mafias et qui détournent aujourd'hui l'État français. Là où je dis qu'il y a une opération psychologique au moins sur 20 ans, et en réalité bien plus, contre le pacifisme réel de l'Europe au Moyen-Orient, c'est ce qu'il faut comprendre à la période 2003, à l'époque de l'invasion de l'Irak, lorsqu'il y avait des manifestations pacifistes contre la guerre d'Irak, notamment en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède. Quatre pays qui ont été lourdement ciblés par l'opération psychologique des caricatures, puis Charlie Hebdo, pour amener, sur 20 ans, à une israélisation de la vision des opinions publiques européennes concernant la situation au Moyen-Orient et concernant l'islam en particulier. Nous l'avons ici avec l'aboutissement, c'est-à-dire le rêve israélien depuis des années, palestinien égale terroriste. Un axiome absolument faux, de même que islam égale terrorisme, islam égale djihadisme. Ceci est en totale contradiction avec la vieille expertise française, la réelle expertise française, qui depuis, malgré l'épisode 32, etc., il y a toujours eu des relations avec le monde musulman qui ont été saines depuis Charlemagne, avec Harun al-Rachid, avec ensuite les royaumes francs en Terre Sainte, mais il y a toujours eu également deux islams dans le sens où nous avons le vrai islam en Terre Sainte, mais nous avions aussi des pseudo-musulmans en Afrique du Nord qui expliquaient que c'était merveilleux de battre sa femme, que c'était le Coran qui avait voulu ça, mais non, les Français disaient nous connaissons l'islam depuis longtemps, nous pouvons vous dire que non, ce sont des traditions locales, qui d'ailleurs sont liées à une absence, à un manque d'eau ou à d'autres choses, mais en tout cas, une autre version de l'islam qui provient en réalité de vieilles dégénérescences spirituelles de l'époque des Phéniciens, et c'est l'islam qui a résolu ces problèmes-là, ce qui est rarement compris même aujourd'hui par les Berbères. Mais ce que je veux dire, c'est que la vieille politique arabisante et pro-islam de la France était juste du bon sens, la compréhension de l'islam en tant que facteur des civilisations, et c'est contre cette vraie vision française de l'islam qui n'a jamais été négative, qui a toujours été positive, qui a toujours compris l'islam comme un facteur de civilisation indubitable, que c'est contre cela qu'une opération psychologique anglo-américano-israélienne s'est déployée depuis 2003, et en réalité une opération bien plus ancienne, mais notable depuis 2003. L'aboutissement, c'est donc cet axiome islam égale terrorisme, palestinien égale terrorisme, et là c'est encore un autre problème, parce que, enfin nous allons revenir sur ce sujet, parce que de fait, historiquement, c'est Israël qui a créé le Hamas. C'est Steve Pachenik, le grand initié du renseignement militaire américain, lui-même juif d'une famille de la Shoah, qui l'avait dit clairement lorsqu'il était officier américain en place en Palestine, en Israël. Il avait dit clairement, il avait recueilli cette confidence par des officiers d'enseignement israéliens. C'est Israël qui a créé le Hamas pour discréditer les nationalistes lettrés qui voulaient juste la solution à deux États, c'est-à-dire le respect du droit international. Donc voilà, je broche déjà en sujet d'intro une grande partie du sujet, mais nous allons pouvoir en reparler.
Merci beaucoup Jean-Maxime pour nous avoir entré dans le vif du sujet. Et Madame Rouni, alors cela intervient alors que la France et l'Allemagne comptent la plus grande population musulmane de l'Union européenne. Je vous laisse réagir.
Oui, il faut noter aussi, comme M. Cornet l'a bien dit, le rapport entre Valls et Darmanin. Il faut rappeler que M. Valls, par exemple, l'Espagnol, qui est devenu français, et, au début, il était avec nous. C'était un pro-palestinien. Je me rappelle de lui. Il lève les drapeaux palestiniens, il sort avec nous, il dit « Vive la Palestine, vive la résistance palestinienne ». Il était un pro-palestinien, M. Valls. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il est devenu maire d'Evry, eh ben, M. Valls est devenu anti-palestinien. C'est pareil que M. Darmanin. M. Darmanin, qui est d'origine tunisienne et algérienne, il faut le rappeler, comme M. Valls en espagnol, il n'est pas de français direct. Donc M. Darmanin aussi, c'était un pro-palestinien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? M. Darmanin est devenu anti-Palestine. Bref, aujourd'hui, toutes les masques sont tombées, y compris dans nos médias, dans nos hommes et femmes politiques. Pourquoi? Parce que le sionisme international ne veut plus du gris. Ceux qui sont avec lui, il faut qu'ils se manifestent. Et ceux qui ne disent rien, eh ben, c'est leurs ennemis. M. Mélenchon, aujourd'hui, c'est un ennemi du sionisme, alors que M. Mélenchon, il n'est pas anti-israélien. Donc, aujourd'hui, on est dans une autre phase, si vous voulez, de la politique extérieure et intérieure. Parce que, comme M. Cornet l'a bien dit, la France, elle a toujours eu sa place dans le monde arabe. Pourquoi? Parce que la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie font partie de la Méditerranée et font partie du monde arabe. Moi, lorsque on me pose la question « Vous êtes de quelle origine ?», je dis « Je ne suis pas de quelle origine, je suis d'origine humaine, je suis français comme vous, c'est-à-dire français, c'est-à-dire méditerranéen. » On a le même ADN, c'est-à-dire le Tunisien, le Marocain, il a le même ADN génétique d'un Français ou d'un Espagnol ou d'un Italien, ce que les autres ne comprennent pas. Donc l'islam en Europe ou l'islam en France ou dans l'Europe du Sud, c'est un islam d'Europe. Il appartient à l'Europe. Alors que l'esprit sioniste, ce n'est pas un esprit européen. Et ça, malheureusement, nos amis de l'autre côté en Orient ne comprennent pas trop. Et la minorité qui gouverne la France aujourd'hui, et comme M. Cornet l'a bien précisé, c'est-à-dire depuis à peu près 25 ans, parce que même avec M. Mitterrand, un ferveur défenseur d'Israël, ben M. Mitterrand, c'était un homme d'État, donc il défendait les intérêts de la France. M. Jacques Chirac, pareil. Jospin, c'est un sioniste, Jospin. Et par contre, lorsqu'il y a l'intérêt de la France, il défend l'intérêt de la France. Aujourd'hui, on n'a plus des gens qui défendent l'intérêt français. L'intérêt de la France, c'est d'être capable de protéger les opprimés, d'être capable de protéger les Razaouis, les enfants, les femmes, les bébés. Par votre voix d'aujourd'hui, j'adresse, moi, solennellement à M. Macron qui va venir, qui va aller à Israël, de protéger les Gazaouis, de protéger les bébés, de protéger la France. Parce qu'en protégeant les enfants palestiniens, on protège la France. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas en opprimant les Français qui défendent la Palestine, parce que les Français qui sont dans la rue par milliers, ils défendent la France en fait, en sortant de dire « Israël, assassin, Macron, complice », c'est un haut message de dire au président de la République « Ne soyez pas complice de ces massacres, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la France. En défendant la Palestine, on défend l'Europe. En défendant la Palestine, on défend la France. » Qu'est-ce qu'ils font? La minorité gouvernante, ils ne défendent pas l'Europe, ils ne défendent pas la France, ils défendent, c'est même pas les Juifs. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, ceux qui colonisent la Palestine, ce n'est pas les Juifs, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis, c'est M. Biden qui colonise la Palestine. Ceux qui font la guerre aujourd'hui contre les Gazaouis et les Palestiniens, ce n'est pas les Juifs, c'est les Américains. Les Américains ne viennent pas pour protéger les Israéliens, ils viennent pour leurs intérêts. Donc aujourd'hui, toutes les masques sont tombées. L'antisémitisme, en tant qu'Arabe, nous sommes sémites aussi. Donc qui est sémite, qui est antisémite? C'est M. Darmanin qui est antisémite, parce qu'il maltraite les Arabes. Les Arabes, c'est les cousins des Juifs. Et on a vu aux États-Unis, en France, en Allemagne, énormément de nos concitoyens juifs descendre dans la rue pour dire « arrêtez les massacres ». Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une autre phase de droits de l'homme. Les vrais droits de l'homme, c'est le peuple français, le peuple allemand, le peuple britannique, le peuple espagnol. Je salue le gouvernement espagnol, le peuple espagnol, les ministres espagnols qui sont plus courageux que nos ministres, malheureusement.
Merci beaucoup. On va peut-être s'intéresser plus avec Jean-Maxime à l'influence du lobby sioniste et son rôle dans ces pays dont on vient d'en parler, la France notamment et l'Allemagne. Alors comment et quel était ce rôle pour imposer ces restrictions? Vous pouvez nous développer un petit plus?
Oui. Monsieur Amrouni vient vraiment d'évoquer plusieurs sujets, dont certains avec lesquels je ne suis pas d'accord. Néanmoins, le propos reste juste. Le fond du propos reste juste, mais il est quelque part internationaliste d'une façon tout à fait duale, que je ne cautionne pas entièrement. Je vais essayer de revenir sur ce point. En tout cas, concernant l'influence claire du lobby juif, d'une part sioniste, d'autre part sur la France et l'Allemagne, c'est une réalité, mais bien peu comprise. En réalité, il faudrait remettre à plat 5 siècles d'hypocrisie humaniste occidentale, en réalité la coexistence de 2 humanismes tout à fait distincts. Un réel humanisme européen, chrétien, et n'ayant jamais été anti-islam, mais par contre ce sont les Turcs qui ont causé des troubles au Moyen-Orient, qui ont engendré les croisades, et là, c'est-à-dire que la réalité serait bien moins manichéenne que ce qu'on la présente, quand on la présente aujourd'hui par exemple comme un choc de la civilisation entre la chrétienté et l'islam. C'est absolument faux. De même que une bonne partie des Templiers français, après leur malheureuse persécution, un des plus grands drames de l'histoire de France, sont devenus bien souvent des maîtres soufis. C'est-à-dire qu'il y a une vraie connexion, il y a une vraie alliance potentielle des véritables croyants entre les vrais chrétiens et les vrais musulmans, sachant que la chrétienté comme l'islam était en réalité deux tentatives de réforme fructueuses d'un fanatisme juif très ancien, mais qui était irréformable depuis l'intérieur du judaïsme. C'est ce que disaient les prophètes juifs avant Jean-Baptiste, avant Jésus, et Mohammed a dit la même chose. Mais ce fanatisme venait d'encore avant le judaïsme, c'est une très vieille histoire. Je la connectais tout à l'heure avec l'histoire des Phéniciens, par exemple. Revenons à l'actualité. Concernant l'influence du lobby juif et sioniste, ce n'est pas uniquement sioniste, c'est vraiment un vieux fanatisme, et en fait les luttes d'influence interne au sein du judaïsme sont à comprendre. Mais les juifs les plus lettrés, les juifs les moins fanatiques, sont toujours massacrés par les plus fanatiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les juifs allemands les plus intégrés, ceux de la Haskalah, qui se sont fait massacrer. Or, quand vous voyez la façon dont le pape Benoît XVI avait été terrorisé, quand il avait tenté de réfuter la culpabilisation sans fin de toute l'Allemagne sur laquelle capitalise l'État d'Israël, il avait été sévèrement mis sous pression jusqu'à être évincé d'une sale façon financière occulte. Mais rappelez-vous les mots de Martin Schulz, politicien socialiste allemand, tandis qu'il était président du Parlement européen, lui-même sans doute d'ailleurs juif. Il résuma au contraire le point de vue que les juifs et les Israéliens aiment entendre, escomptant une culpabilisation éternelle de l'Allemagne. Il disait « Pour moi, la nouvelle Allemagne n'existe que pour assurer la sécurité d'Israël et du peuple juif. » Mais quelle odieuse prétention! D'autant plus que si on gratte un peu l'histoire, Hitler avait tenté, par les accords de la Havara en 1933, d'accepter l'émigration sioniste des juifs en Terre Sainte en échange de matériel américain. L'histoire réelle n'est pas du tout celle que l'on en dit, et par bien des égards. Je laisse ce point de côté, mais aujourd'hui, l'Allemagne est clairement la prostituée d'un certain fanatisme juif, c'est évident, à partir d'un grand nombre de mensonges historiques que je ne peux pas développer. Mais c'est tout de même une histoire bien moins manichéenne. Les Allemands ne sont pas devenus antisémites du jour au lendemain, ce sont des mensonges historiques, alors qu'au contraire, les Juifs allemands, comme les Juifs français, étaient les plus assimilés de tout l'Occident. Ceci comparativement au judaïsme de l'Est. Le judaïsme de l'Est, de Pologne et Russie, qui a compté les Juifs les plus fanatiques, ils sont devenus violemment anti-russes, violemment contre le tsarisme et l'État russe, lorsqu'ils se sont aperçus que la Russie était un modèle tellement honnête et tellement attractif pour les Juifs qu'en réalité, l'État russe devenait un pouvoir concurrent du pouvoir rabbinique, et c'est quand le pouvoir rabbinique en a eu peur qu'il a déclenché lui-même des pogroms contre les Juifs par le groupe de Juifs extrémistes Narodnaya Volia. Ça, c'est raconté dans un livre sur les assassinats d'Israël, les assassinats ciblés d'Israël, par Ronen Bergman, lui-même juif, grand ponte du New York Times. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'histoire réelle n'est pas du tout celle que l'on raconte, et que, par bien des égards, un certain fanatisme prospère sur une vision fallacieuse de l'histoire, tout en faisant toujours prendre aux Juifs les mêmes types de risques. Je l'ai déjà dit sur votre antenne, nous voyons aujourd'hui poindre le même risque que durant l'Antiquité à travers les errances aujourd'hui de l'État d'Israël, qui est en train de se faire détester de nouveau de toutes les façons possibles, qui a été poussé à sa détestation par la partie la plus subversive et fanatique de la communauté juive, notamment américaine, qui sont bien souvent d'anciens juifs russo-polonais fanatiques, mais des gens qui sont réellement dangereux par leurs propos.
Jean-Maxime, une minute devant nous, merci. Une minute, nous avons une minute, moins d'une minute.
Ce sera la fin de mon propos sur ce point. Je vais juste terminer avec le grand rabbin européen Goldschmidt, qui dans le Guardian en 2018 avait dit que les juifs étaient les promoteurs de l'immigration musulmane en Europe, parce que plus il y avait d'immigrants en Europe, plus les juifs se sentaient confortables en réalité, en créant des divisions internes en Europe, mais c'est noir sur blanc dans le Guardian par le grand rabbin européen. Et c'est ce grand rabbin-là qui a fui la Russie au début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il existe des dignitaires juifs qui ont une vision tout à fait fanatique et qui est très dangereuse en réalité pour l'avenir du peuple juif. Et c'est ce point qui est sous-étudié à notre époque et qui est à l'origine d'un risque de guerre civile en Europe par rapport et d'une façon tout à fait parallèle à la façon dont les manifestations aujourd'hui en France et en Allemagne sont globalement criminalisées.
Merci beaucoup Jean-Maxime Corneille et Imadeddine Amrouni à vous deux. Alors notre émission touche à sa fin, je suis obligée à vous dire au revoir. Merci beaucoup amis téléspectateurs pour votre fidélité, excellente journée.
Voyage dans l'univers mystique de Mon Lavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Le trésor. À l'époque du prophète David, un homme adressait à Dieu ce genre de prière. Ô Seigneur, procure-moi des trésors sans que j'aie à me fatiguer. N'est-ce pas toi qui m'as créé, si paresseux et si faible? Il est normal qu'on ne charge pas de la même manière un âne débile et un cheval plein de vigueur. Je suis paresseux, il est vrai, mais je n'endors pas moins sous ton ombre. Il priait ainsi du matin au soir, et ses voisins se moquaient de lui. Certains d'entre eux le réprimandaient, et d'autres le raillaient en disant: le trésor que tu appelles de tes vœux n'est pas loin. Va le chercher, il est là-bas. La célébrité de notre homme s'accroissait de jour en jour dans le pays. Or, un jour qu'il priait chez lui, une vache emportée fracassa sa porte de ses cornes et pénétra dans sa demeure sans cérémonie. L'homme s'empara d'elle, lui lia les pieds et sans hésiter une seconde, il l'égorgea. Puis, il se rendit en courant chez le boucher, afin que celui-ci dépèce sa victime. Sur son chemin, il croisa le propriétaire de la vache. Celui-ci l'apostropha. « Comment as-tu osé égorger ma vache ? Tu m'as causé un tort considérable. » L'autre répondit : « J'ai imploré Dieu pour qu'il pourvoie à ma subsistance. J'ai prié jour et nuit, et finalement, ma prière a été entendue et ma subsistance s'est présentée à moi. Voici ma réponse. » Le propriétaire l'attrapa par le col et lui asséna deux gifles. Puis, il l'entraîna chez le prophète David en disant : « Espèce d'idiot, je vais te montrer le sens de tes prières. » L'autre insistait en disant : « C'est pourtant vrai, j'ai beaucoup prié et Dieu m'a entendu. » Le propriétaire de la vache ameuta la population par ses cris : « Venez tous admirer celui qui prétend s'approprier mes biens par la prière. S'il en était vraiment assis, tous les mendiants seraient riches. » Les gens qui s'assemblaient autour d'eux commencèrent à lui donner raison. « Tu dis vrai, les biens s'achètent ou s'offrent, ou encore ils s'obtiennent par héritage. Mais aucun livre ne mentionne ce procédé d'acquisition. » Un grand bruit se fit dans la ville autour de cet événement. Le pauvre, quant à lui, se tenait face contre terre et priait Dieu en ces termes : « Oh mon Dieu, ne me laisse pas ainsi dans la foule, couvert de honte. Toi, tu sais que je n'ai cessé de t'adresser mes prières. » Enfin, on arriva chez le prophète David, et le plaignant prit la parole. Auprès du prophète David, le plaignant prit la parole. « Ô prophète, rends-moi justice. Ma vache est entrée chez cet imbécile et lui, il l'a égorgée. Demande-lui pourquoi il s'est permis d'agir ainsi. » Le prophète se retourna alors vers l'accusé pour lui demander ses explications. Celui-ci répondit : « Ô David, depuis cette année, je prie Dieu jour et nuit. Je lui demande de pourvoir à ma subsistance sans que j'aie à m'en soucier. Ce fait est connu de tous, même les enfants de cette ville. Tout le monde a entendu mes prières et chacun s'est bien moqué de moi à ce sujet. Or, ce matin, alors que je priais, les yeux remplis de larmes, voilà que cette vache pénètre chez moi. Ce n'est certes pas la faim qui m'a poussé, mais plutôt la joie de voir mes prières exaucées. Et ainsi, j'ai égorgé cette vache en rendant grâce à Dieu. » Le prophète David dit alors : « Ce que tu me dis est insensé, car de telles assertions ont besoin d'être étayées par des preuves recevables devant la loi. Il m'est impossible de te donner raison et d'instaurer ainsi un précédent. Comment peux-tu prétendre t'approprier quoi que ce soit sans en avoir hérité? Personne ne peut récolter s'il n'a semé auparavant. Va, rembourse cet homme. Si tu n'as pas l'argent nécessaire, emprunte-en. » L'accusé se révolta. « Voilà que toi aussi, tu te mets à parler comme ce tortionnaire. » Il se prosterna et dit : « Ô mon Dieu, toi qui connais tous les secrets, inspire le cœur de David, car les faveurs que tu m'as offertes n'existent pas dans son cœur. » Ces paroles et ses larmes touchèrent le cœur de David. Il s'adressa alors au plaignant : « Donne-moi un jour de délai afin que je puisse me retirer pour méditer, afin que celui qui connaît tous les secrets m'inspire dans mes prières. » Ainsi, David se retira-t-il en un lieu écarté, et ses prières furent acceptées. Dieu lui révéla la vérité et lui désigna le véritable coupable. Le lendemain, le plaignant et l'accusé se présentèrent à nouveau devant le prophète David. Comme le plaignant ne faisait que se plaindre davantage, David lui dit « Tais-toi, fais-le muet et considère que cet homme avait le droit de s'emparer de ta vache. Dieu a protégé ton secret. En échange, accepte de sacrifier ta vache. » Le plaignant s'offusqua. « Qu'est-ce que c'est que cette justice? Commences-tu à appliquer une nouvelle loi? N'es-tu pas renommé pour l'excellence de ta justice ?» Ainsi, la demeure de David fut-elle transformée en un lieu de révolte. Le prophète dit au plaignant, « Ô homme têtu, tais-toi et donne tout ce que tu possèdes à cet homme. Je te le dis, ne sois pas ingrat, ou tu tomberas dans une situation pire encore, et tes méfaits seront révélés au grand jour. » Le plaignant se prit de colère et déchira ses vêtements. « N'est-ce pas plutôt toi qui me torture ?» David tenta en vain de le raisonner. Puis il lui dit « Tes enfants et ta femme deviendront les esclaves de cet homme. » Ceci ne fit qu'augmenter la fureur du propriétaire. Il n'était d'ailleurs pas le seul à être indigné, car l'assistance, ignorante des secrets de l'inconnu, prenait fait des causes pour le plaignant. Le peuple achève le supplicité et adore son tortionnaire. Les gens dirent à David, « Toi qui es l'élu du miséricordieux, comment peux-tu agir ainsi ? Pourquoi portes-tu un tel jugement sur cet innocent ?» David répondit, « Ô mes amis, voici venu le moment de dévoiler des secrets qui étaient restés cachés jusqu'à aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que vous m'accompagniez à l'extérieur de la ville. Là-bas, dans la prairie, nous trouverons un grand arbre dont les racines portent l'odeur du sang. Car cet homme qui se plaint est un assassin. Il a tué son maître alors qu'il n'était qu'un esclave et il s'est approprié tous ses biens. Et l'homme qui l'accuse n'est autre que le fils de son maître. Ce dernier n'était qu'un enfant à l'époque des fêtes que je raconte. Et la sagesse de Dieu avait caché ce secret jusqu'à aujourd'hui. Mais cet homme est ingrat. Il n'a pas remercié Dieu. Il n'a pas protégé les enfants de celui qui l'a tué. Et voici que ce maudit, pour une vache, frappe de nouveau le fils de son maître. C'est de ses propres mains qu'il a déchiré le voile qui cachait ses péchés. Les méfaits sont enfouis dans le secret de l'âme, mais c'est le malfaiteur lui-même qui les révèle au peuple. David, accompagné de la foule, se rendit à l'extérieur de la ville. Parvenu à l'endroit qu'il avait décrit, il dit au plaignant « Désormais, ta femme, qui était la servante de ton maître, tous tes enfants nés d'elle et de toi, tous font partie de l'héritage de cet homme. Tout ce que tu as gagné lui appartient, car tu es son esclave. Tu as voulu que la loi soit appliquée, eh bien, voici la loi. Tu as tué son père d'un coup de couteau, et si l'on creuse ici, on trouvera un couteau gravé à ton nom. » Les gens se mirent à creuser, et l'on trouva effectivement le couteau ainsi qu'un squelette. La foule dit alors au pauvre, « Ô toi qui appelais la justice de tes vœux, voici ton heure. Celui qui porte plainte pour une vache, c'est ton ego. Il prétend être le maître. Celui qui a égorgé la vache, c'est ta raison. » Si tu souhaites, toi aussi, gagner sans peine ta subsistance, il faut t'égorger cette vache. »
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.